On va parler du futur, d'une autre, et celui de Google, cette méta multinationale dont les dirigeants aimeraient bien justement confondre peut-être leur futur avec le nôtre. Ils aimeraient par exemple pouvoir nous guider partout avec leurs cartes, nous conduire en même temps avec leur voiture, nous conseiller et nous informer avec leurs lunettes, leurs informations, nous faire aimer la vie, les arts et la culture avec leur Google Art Project, leur institut culturel, leur lab qui dépend de l'institut culturel et qui a été inauguré hier à Paris. Ils aimeraient nous faire communiquer partout et tout le temps entre nous, quitte à nous surveiller un petit peu, mais c'est pour notre sécurité. Ils aimeraient aussi tuer la mort avec leur projet Calico. Ils veulent en fait changer l'humain. Et c'est vrai que ça fait bien longtemps que Google n'est plus qu'un simple moteur de recherche, tant le géant se transforme peu à peu en moteur d'humanité. Bonjour à nos invités, Eric Sadin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Écrivain, philosophe, vous êtes l'auteur notamment en mai dernier de L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde aux éditions L'Échappée. Moteur d'humanité pour Google, ça vous va comme...
Oui, en tous les cas, géant de l'Internet qui ne cesse de s'inventer, de se réinventer, d'inventer de nouveaux procédés. Ouais.
On sera tout à l'heure avec Laurent Alexandre, chirurgien, urologue, auteur, chef d'entreprise, penseur. Il aura beaucoup de choses à nous dire aussi, lui, sur ce projet Calico et sur la transhumanité. On en parlera. André Affradin est là aussi, évidemment, notre spécialiste des univers connectés, du monde merveilleux de la technologie, du big data et du grand n'importe quoi. Alors Andrea, partons peut-être de l'actualité récente de Google, hein, on en parlait, l'ouverture à Paris hier du Lab, on passera sur l'originalité du nom, on va essayer de savoir ce que c'est. Tu y étais à cette inauguration hier et tu nous disais tout à l'heure dans ta chronique d'ailleurs que tu n'avais pas encore très bien compris à quoi ça pouvait servir.
Oui, c'était surtout une grosse opération de com et effectivement ce qui était vraiment marquant c'est que les responsables de ce projet en le présentant à la presse disaient et ont introduit leurs propos en disant tout le monde nous demande pourquoi, et c'est une excellente question. De toute façon, toutes tes questions sont excellentes hein, chez Google, forcément.
Et, ils sont gentils, quoi. Hein.
Ah, ils sont gentils, enthousiastes, et tout est merveilleux. Et finalement, ils ont fait leur exposé, donc c'est ce que je disais dans la chronique. Ils disaient ce ne sera pas un musée, ce ne sera pas ouvert au public, mais c'est quand même un lieu physique, rattaché donc à ce projet Institut Culturel qui est un truc en ligne, une plateforme en ligne. Et au final, ils nous exposent tout ça et on finit par ne pas comprendre de quoi il s'agit. Et on redemande, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Bon, et c'est là qu'il y a cette réponse absurde. Mais c'est là, le lab de l'Institut culturel est là à Paris parce que nous sommes tous passionnés de culture et d'art. Bon, voilà. En fait, ce qui est notable surtout, c'est que Google devient et manipule le langage d'un État aujourd'hui et une espèce de puissance comme ça géopolitique.
Et ils installent une ambassade en gros.
Ils avaient déjà l'ambassade avec le QG hein, de Google France à Paris, rue de Londres. Et là, il y a une espèce d'annexe culturelle parce que effectivement, il y a eu de nombreuses frictions avec le gouvernement, notamment et surtout côté culturel et Aurélie Filippetti, comme je disais, la ministre.
A posé un lapin hier, exactement.
Alors qu'elle disait a priori qu'elle allait y aller, en fait, elle s'est rétractée. A dit non, je n'y vais pas parce que ce serait une caution sur certains dossiers qui ne sont pas réglés, notamment par rapport à la fiscalité, par rapport à la question des droits d'auteur, etc. Donc en fait...
La durée de conservation aussi.
Il y a tout un tas de dossiers qui sont ouverts et sur lesquels la France est très opposée à Google et de façon vraiment très violente parfois. Voilà,
et en même temps, le gouvernement a dû envoyer en urgence, quand Filippetti a dit qu'elle n'y allait pas, Fleur Pellerin pour rattraper et pour peut-être conserver des relations diplomatiques.
Oui, ça ressemble vraiment à des relations entre États. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire, il y a des choses de l'ordre de l'impair et des choses qu'il faut, sur lesquelles il faut vraiment s'opposer pour montrer qu'on ne se laissera pas faire. Donc c'est vraiment très marquant et il faut voir le lab comme ça. C'est une tente de négociation de Google pour négocier avec le secteur culturel qui n'est pas facile. Quoi.
C'est un lieu physique aussi, on va pouvoir aller chez Google du coup maintenant. Ça change peut-être quelque chose aussi dans peut-être l'image de l'entreprise, je ne sais pas, Eric Sadin
Oui, j'ai entendu dire que ce serait aussi un lieu d'expo. En tout cas, c'est quand même l'idée, c'est une visibilité pour une nouvelle pratique que développe Google, qui est de présenter des œuvres d'art, des peintures en accord avec des musées. Ça s'inscrit dans la continuité de Google Books, hein, c'est-à-dire une partie du savoir numérisé, accessible, avec toujours cette idéologie de Google, qu'en partie, d'ailleurs selon eux en très large partie, ils contribuent au bienfait de l'humanité. Hein,
ils en sont convaincus.
Totalement convaincus. C'est toute une idéologie californienne, libertarienne, basée sur le fait qu'il faut qu'il y ait le moins de réglementation possible, le libre-échange, et puis l'esprit pionnier. Alors l'esprit pionnier, c'est-à-dire on invente toujours, on est aux avant-postes de ce que Internet permet. Et évidemment, le livre, avec la numérisation des bibliothèques et des livres, où là, ils y étaient allés en force. Hein. Ils étaient allés en force, sans attendre de caution juridique.
C'était la politique du fait accompli, du on fait se accompli. Rappelle, hein, c'était il y a quelques années, ils avaient commencé à numériser.
Ce qui là n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils ont fait des agreements, des accords avec des musées.
400 dans le monde.
Voilà. Et puis c'est en cours, il y a une plateforme ouverte où chaque musée peut intervenir et proposer que les équipes de Google aillent numériser, enfin, et photographier en haute définition certaines de leurs œuvres. Donc voilà, ça s'inscrit dans cette... En tous les cas, pour ce qui est de ce projet-là, dans cette idéologie que je voulais souligner, hein, ce matin, qui est très important, c'est-à-dire aussi bien pour ce qui est de la santé, de la médecine, on contribue au bienfait de l'humanité. Alors, quelle entreprise européenne ou française oserait dire, nous, on veut contribuer au bienfait de l'humanité? Mais personne.
Le MOVE, on essaye de le faire.
Le MOVE, c'est le cas. Mais ça, nous le savons tous, on n'a pas besoin de l'affirmer. Eux l'affirment en continu.
Mais c'est assez frappant, effectivement. Et hier, à l'inauguration du Lab, je pensais à ces films catastrophes. Vous savez, dans les films catastrophes, il y a toujours ce moment où on doit sauver les œuvres d'art vite, vite, parce que la lave arrive, parce que le tsunami arrive, ou quoi. Enfin, bref, ça dépend. Et Google fait ça, en fait. Ce que dit Google pour tous ses projets, effectivement, c'est il faut numériser le savoir pour le rendre accessible à tous.
Mais c'est ça, en fait, ils scannent le monde. On parlait de Google Books tout à l'heure. Il y a Street View, évidemment, Google Earth, tout le monde utilise. Finalement, l'Institut culturel, ils scannent les musées.
Ça s'inscrit dans un projet tendanciel de volonté de numérisation intégrale du monde. Bon, par exemple, il y a Google Maps, il y a eu Google Indoor l'année dernière, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, vous savez, jusque-là, on pouvait pas scanner, mapper par exemple, les centres commerciaux, les aéroports.
Les intérieurs.
Et maintenant, c'est les fonds sous-marins, par exemple. Hein. Donc, on se dit, jusqu'où? Jusqu'au plus possible.
Pourquoi? Je pose la question aux philosophes, et puis Gilles Verviche est resté aussi avec nous. Ils veulent mettre le monde sous une cloche et le préserver.
C'est tout simplement l'affaire des données. C'est-à-dire, c'est la grande affaire des données, l'affaire centrale de notre présente décennie, c'est-à-dire de capter le plus grand nombre de données et de les exploiter à de multiples fonctionnalités, en sachant que l'exploitation pertinente de données permet d'ajuster les offres aux personnes, permet de connaître les comportements, permet d'intensifier les usages et permet de vendre sous de multiples formes des services aux utilisateurs.
Voilà, ça permet de faire du business aussi.
Et c'est aussi l'idée d'avoir des données propres, parce que un tableau, je peux le chercher partout dans Google Images, mais là, ce qu'ils veulent, c'est... de la métadonnée sur le tableau et bien le référencer.
De bien pouvoir rechercher, c'est ce qu'ils montraient hier, si tu veux chercher des tableaux ou des œuvres qui sont faites en or, tu auras tous les objets qu'ils ont numérisés en or qu'ils ont dans leur collection, c'est assez bluffant.
Et ça va même encore plus loin, parce que finalement ils veulent être des acteurs de la culture, on va développer là-dessus, peut-être Eric Savin.
Ils ont raté la musique,
ils ont essayé quand même aussi.
La vidéo, ça a marché avec YouTube, ils ont racheté, parce qu'ils innovent, mais aussi ils font beaucoup de rachats de start-up. Et là, c'est les musées,
Sur la musique qu'ils ont lancée il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, l'équivalent de Spotify et Deezer.
Enfin, ils sont arrivés à beaucoup plus tard que iTunes, par exemple.
Sur le projet Google Art Project, écoutez ce qu'en dit Anselm Baird-Smurf, c'est l'ingénieur en chef de l'Institut culturel de Google. Il nous explique qu'il ne veut pas se limiter au partenariat avec les musées, donc il ne veut pas se limiter à la numérisation des œuvres. Il veut aussi bosser avec les artistes actuels et leur permettre, notamment aux artistes contemporains, d'exposer, de monter des expos virtuelles.
De son point de vue, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a des photos effectivement de ses tableaux, puisqu'elle prend des photos à chaque fois qu'elle fait un tableau. Donc elle a téléchargé les images de ses tableaux, elle a un titre, une description, et finalement, littéralement en quelques heures, elle bénéficie de toute la puissance de ces technologies. Donc l'internaute peut se promener dans cette collection, admirer les tableaux, ou au moins émettre un avis dessus finalement. C'est finalement la possibilité de rendre ces tableaux disponibles à l'ensemble de la planète, ce qui est quand même extraordinaire.
L'ingénieur en chef de l'Institut culturel de Google qui parlait d'une artiste...
qui parlait de sa sœur, en fait.
Qui parlait de sa sœur, voilà. Une artiste qui va pouvoir utiliser sa sœur, elle est bien placée en plus.
Elle en a de la chance.
Art Project. Eric Savin, ça vous inspire quoi ?
Oui, enfin, ça m'inspire le fait que on peut se dire, mais est-ce que c'est pas un peu chaotique tout ça ? C'est-à-dire que c'est un peu, on se dit, c'est un peu tous azimuts, tous les projets qui sont développés. Moi, je crois que ça s'inscrit dans l'idée que c'est l'innovation continue qui devrait maintenir la puissance de Google. Il y a eu des exemples quand même qui ont beaucoup marqué, BlackBerry, Nokia, quand même Nokia
qui était géants qui sont cassés la gueule.
dire, mais en quelques années, hein, MySpace, dans une moindre mesure Microsoft qui a raté Internet. Donc l'idée, c'est par l'innovation à double titre. D'abord, on donne l'image d'une entreprise qui ne cesse d'inventer, qui ne cesse d'être au contact des mouvements contemporains.
Ouais, qui est cool, quoi. Mais qui est dans une fuite en avant.
Qui est cool. Bah, peut-être pas tant dans une fuite en avant que, dans l'idée de notre temps contemporain, c'est la transformation continue, on y participe, et la transformation continue par l'invention. Et à la fois, c'est l'occasion d'inventer constamment des nouveaux produits, des nouveaux protocoles qu'on va pouvoir monétiser.
Andréa ?
Oui, c'est ce sur quoi je voulais revenir. Si Google a tout ce discours très marketé de « on veut changer le monde », c'est parce que la boîte a cette conscience que les cycles d'innovation sont très courts aujourd'hui. Et que un truc comme MySpace, par exemple, qui était à la pointe du réseau social
il y a 6 ans. Aujourd'hui, Second Life, qui a duré quoi ? 2-3 ans.
Voilà, c'est ça. Tout s'effondre
très vite. C'était énorme pendant un an, Second Life.
Tout comme Microsoft. Et donc, Google a cette conscience-là. On a l'impression même qu'il y a cette crainte et qu'il y a cette peur du jour au lendemain de s'effondrer. Et donc, ils sont dans cette recherche permanente, quoi.
Bon, on va continuer à parler de tout ça et puis on va essayer de voir comment Google va évoluer. Peut-être comment Google va mourir, parce que finalement, c'est aussi le cycle de la vie. On progresse, on se multiplie et puis on meurt. Il est 8h15.
Ok, Glass, record a video.
This is it, we're on in 2 minutes.
Ok, Glass, hang out with the Flying Club.
Google photos of tiger heads.
C'est ça le futur, il est là, il est sur notre nez et tout le monde est beau dans le futur d'ailleurs, dans les clips de Google en tout cas, tout le monde est beau et ils inventent le futur, nos amis de Google. On parle de l'évolution de cette société et de comment elle voit l'avenir, notre avenir avec nos invités, notamment avec Eric Sadin qui est avec nous en plateau, écrivain, philosophe. Eric Sadin, cette société qui invente des lunettes du futur, ça vous inspire quoi ?
Ben, ça m'inspire qu'on parle d'idéologie, mais il y a une compétence extraordinaire de Google, hein, compétence sur deux choses principalement, sur d'autres choses, mais principalement sur deux choses, c'est la collecte de données et c'est l'intelligence artificielle. Et donc c'est des algorithmes, et les Google Glass, c'est l'un et l'autre à la fois, c'est-à-dire d'abord ça amplifie ce mouvement qui date d'une quinzaine d'années de réalité augmentée, c'est-à-dire de superposer des informations à notre perception naturelle des choses, mais l'idée c'est de les individualiser, d'offrir à chaque porteur des informations spécifiques à ses profils, en rapport avec le territoire, en rapport avec ses historiques. Donc on voit bien cette compétence-là de données, de connaissance des personnes, de connaissance des relations entre chaque personne et l'environnement. Quand je dis environnement, c'est les commerces, les services.
Et les gens, en fait, parce qu'il y a
et des personnes entre elles. Et la possibilité, par image, par le son, d'offrir des solutions ou des offres continuellement ajustées à chaque personne. Et là, c'est une compétence, parce que ça nous paraît évident quand on le formule comme ça, mais c'est une compétences technologiques extraordinaires.
Ouais, on a commencé cette deuxième séquence d'entretien autour de l'avenir de Google, parce que on a commencé avec les Google Glass, parce que tout à l'heure on disait ils scannent le monde, ils scannent les musées, les routes, la terre, les fonds des océans, comme vous nous le disiez, ils vont scanner les humains maintenant avec ces lunettes Google Glass.
En tous les cas, ils vont permettre une connaissance des humains à l'égard de l'environnement avec d'après une profondeur de connaissance sans commune mesure historique. C'est-à-dire, si j'ai mes Google Glass et vous les avez vous-même, Benoît, il y a nos préférences.
On se connaît, quoi.
Voilà, on se connaît et c'est un mouvement qui existe, c'est-à-dire de plus en plus, qui ne google pas, googlise pas un nom quand on rencontre quelqu'un.
Oui, ça sera instantané, quoi.
Voilà, ça sera instantané, mais tout ça confirme le fait que, à la fois, il y a de plus en plus d'informations qui s'agrègent à notre perception, ça confirme le fait que la technologie ne cesse de se rapprocher du corps, hein. Les smartphones n'avaient fait que radicaliser cette dimension-là par le tactile, hein. Bientôt les puces qui s'intègrent dans le corps, les Google Glass, c'est l'intégration. L'intégration et l'information intégrée, superposée à notre perception, et qui suppose que de plus en plus, il y a une connaissance affinée de l'environnement et des autres, tout cela par la collecte de données, le temps réel, et des algorithmes et l'intelligence artificielle. C'est pas rien quand même.
Ils sont partout, ils sont en train d'inventer le futur, ils sont en train d'inventer notre vie du futur. C'est à la fois quelque chose de très fascinant et à la fois quelque chose de très perturbant et qui fait peur, Eric Sadin.
Et qui optimise, c'est-à-dire par exemple les Google Cars, c'est quand même la fluidification absolue à terme
des trafics,
de la circulation. circulation. Là encore, c'est les données, c'est les capteurs. Alors les capteurs, on n'en a pas parlé, on ne peut pas parler de tout ce matin, mais c'est l'idée que notre environnement de plus en plus est appelé à être infiltré par des capteurs qui récoltent encore des informations. Là, ce n'est pas la numérisation, c'est la numérisation directement, enfin de la récolte directement numérisée d'informations et qui sont encore exploitées. Alors une Google Car, c'est une sorte de poste de commandement militaire sur sophistiqué, intégré à un véhicule roulant qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes. Hein. Il y avait des Toyota, il y avait d'autres voitures. Et alors, il y a des capteurs de toutes parts. Il y a l'intelligence des données, la connaissance de l'environnement, reliée aux autres voitures, à l'état des routes. Et bon, la place du conducteur, elle n'existe plus. Maintenant, on peut lire la tablette. À terme, là aussi, ça signale à terme ce dont j'évoque dans mon dernier bouquin, la délégation progressive que nous concédons à la technique qui, de plus en plus, prend en charge nos vies quotidiennes de façon extrêmement élaborée.
C'est de la science-fiction, Thomas Rozek.
Ouais, c'est de la science-fiction. Et ce qui, moi, me stupéfie autant que ça me terrifie, c'est la grande naïveté des États vis-à-vis de ça. C'est comme si on a l'impression qu'ils n'ont lu aucun livre de science-fiction, qu'ils n'ont vu aucun film de science-fiction, ils n'ont jamais vu cette apparition d'une méga entreprise qui se met à dominer le monde, été prophétisée un million de fois par la SF. Oui. C'est comme si ça leur échappait totalement, ça leur passait sous le nez.
Mais est-ce qu'ils dominent le monde? Est-ce qu'ils vont dominer le monde? Est-ce que c'est leur objectif, Eric Sadin, de dominer le monde?
Alors c'est dominer le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose d'hégémonique, non pas totalitaire, mais de totalisant, on a dit, hein, vouloir tout numériser.
Mais ça peut devenir totalitaire. Ça donne des clés après, pour le devenir.
J'ai du mal à croire que cet esprit californien est quelque chose et des velléités totalitaires. En revanche, totalisant, c'est-à-dire de vouloir être hégémonique, de vouloir être. Et puis, ça pose la question des rapports, quand même, entre les législateurs et l'économique. Mmh. Et on a bien vu, en gros, Google, c'est le plus grand sociologue en action du monde, hein, c'est-à-dire la connaissance des comportements. Mmh. Et on a bien vu avec l'affaire Prism révélée par Snowden et relayée par Greenwald dernièrement. Qu'il y a une collusion, alors plus ou moins implicite.
Oui, ils filent les données, il n'y a pas de souci.
On dit par des backdoors, mais eux ont démenti. Mais non, mais il y avait 9 des plus grands acteurs américains d'Internet, dont Google, Facebook, YouTube, etc., qui avaient accès aux données des utilisateurs via des portes dérobées. Alors, via portes dérobées, par consentement ou non, ça on ne le sait pas.
Thomas Rozek.
Il n'y a pas de velléité totalitaire, de toute façon, c'est pas possible de l'affirmer comme ça, mais il y a des velléités qui ne sont pas forcément toujours extrêmement rassurantes. Eric Schmidt, par exemple, patron de Google, est persuadé et le dit à qui veut bien l'entendre que la vie privée va devenir illégale sur Internet, que l'anonymat va devenir illégal sur Internet.
En tout cas, la vie privée avec Google, elle s'est évidemment considérablement effritée depuis leur apparition. Les chiffres d'affaires de Google, c'est énorme. Hein, on en parlait avec Andrea tout à l'heure. 3 milliards de bénéfices au troisième trimestre 2013. C'est par quoi ces bénéfices et tous ces chiffres d'affaires qui ne cessent d'augmenter? C'est par la monétisation des comportements. Et la monétisation des comportements, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose la connaissance de plus en plus affiner des personnes, notamment par les mots-clés, hein, les mots-clés qu'on ne cesse de taper, mais pas seulement, c'est Android, c'est les mots-clés associés à Android, c'est Android bientôt associé au Google Glass. Vous rendez compte le nombre de gestes qui vont être mémorisés par les Google Glass si jamais c'est confirmé. Les personnes que vous voyez, les personnes avec qui vous êtes en contact, vos intérêts, ce que vous voyez vous-même, c'est énorme en termes de connaissance des personnes.
Et alors la question que ça... Andrea,
pour revenir sur les rapports de Google avec les États, il faut bien voir effectivement la puissance de Google. Google, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires, autant qui repose dans les paradis fiscaux. Et effectivement, face aux États, c'est une puissance absolument... absolue pour le coup. Et quand on voit par exemple comment la France et les autres pays à travers le monde galèrent pour par exemple imposer des règles fiscales à Google qui impose quand même de repenser tout le système de l'OCDE. C'est international et c'est un chamboulement mais gigantesque qui est nécessaire puisque effectivement Google comme d'autres paye une part d'impôt très négligeable sur ses activités, mais c'est une révolution vraiment mondiale. Il faut bien voir ça. Donc c'est très difficile pour les États d'avoir une incidence sur la marche de ce genre d'entreprise qui est énorme. Et c'est très, très percutant et très effrayant.
Ça pose des vraies questions, effectivement, pour la suite. Google, donc, qui impose sa loi aux États, aux communautés d'États aussi, Andrea, tu nous le disais, et puis qui impose sa loi maintenant, en tout cas, qui veut essayer de l'imposer sur l'humanité et sur la vie, la mort de nous autres pauvres humains, pauvres mortels. On est au téléphone avec Laurent Alexandre qui est chirurgien, urologue, auteur, penseur également. Est-ce que Google veut changer l'humain, Laurent Alexandre?
Oui, bien sûr. Comme Eric Saldin l'a dit
tout à l'heure. Bonjour Laurent.
Bonjour. Google est un spécialiste de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Or, la médecine de demain, elle devient numérique. Avec le développement du séquençage de l'ADN, ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'informations médicales que nous allons avoir sur notre corps. Qui mieux que Google va pouvoir analyser cette montagne, ce déluge de données ? Personne. Donc Google s'est positionné sur la lutte contre le vieillissement parce que la lutte contre la maladie et le vieillissement devient une affaire d'informatique. Car la médecine de 2020, ce n'est plus l'artisanat que nous avons connu, c'est d'abord de l'informatique et de la technologie. Et Google est imprégné de culture transhumaniste. Il faut bien comprendre que les principaux dirigeants de Google sont des idéologues transhumanistes, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il est légitime d'utiliser toute la puissance des nanobiotechnologies pour faire reculer la mort et le vieillissement. Sergey Brin et Larry Page, les dirigeants, sont bien sûr imprégnés d'idéologie transhumaniste. Ray Kurzweil, le patron du développement de Google, est le pape mondial, le leader mondial du transhumanisme. Et Vincent Cerf, qui est le fondateur du web et qui maintenant est un salarié de Google, est lui aussi partisan de l'enhancement, c'est-à-dire le renforcement des capacités humaines grâce à la technologie.
Bon, mais qu'est-ce que ça va donner ça, Laurent-Alexandre ?
Il y a un terreau idéologique chez Google favorable à la lutte contre le vieillissement et la mort, et Google maîtrise les principaux outils de demain, les principaux outils médicaux de demain, qui sont les algorithmes intelligents pour utiliser les données numériques sur notre corps et notamment les données génétiques.
Ouais, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années au lycée, on nous disait, alors l'ADN, c'est quelque chose de très compliqué, vous vous rendez compte, il faudrait une pile de livres qui mesure aussi haut que la Tour Eiffel pour séquencer, pour mettre tous les codes qui sont dans chaque brin d'ADN. Aujourd'hui, on est à des années-lumière.
Le séquençage de l'ADN devient quelque chose de banal. On a déjà séquencé 1 million de personnes sur Terre. C'est-à-dire, en 10 ans, le coût du séquençage ADN, il a été divisé par 3 millions. Ça ne vaut plus que $1,000 et bientôt $100 par personne. Et c'est quelque chose qui est en train de devenir banal. Ce qui n'est pas banal, c'est d'utiliser ces données pour déterminer la meilleure stratégie médicale nous concernant. Et là, il faut des algorithmes extraordinairement puissants pour bien utiliser les données médicales et les données génétiques pour notre parcours de santé. Et c'est là où la puissance de Google dans les algorithmes va devenir cruciale, car pour bien exercer la médecine demain, il faut de l'intelligence artificielle.
Ce que vous nous dites, Laurent-Alexandre, c'est que la technologie, plus le savoir de Google, plus leur emprise finalement sur le monde entier et leur collecte de données, tout ça va donner des humains qui vont pouvoir vivre beaucoup plus vieux dans pas si longtemps.
En tout cas, Google a l'idéologie et la technologie lui permettant d'être un leader mondial dans la lutte contre le vieillissement et contre la mort.
Donc ils sont dans la médecine maintenant
aussi. Google a la volonté et la technologie. Et ils veulent développer une société transhumaniste, c'est-à-dire dans laquelle la mort recule, et ils vont s'en donner les moyens. L'objectif de Google aujourd'hui est de faire reculer et d'augmenter l'espérance de vie humaine d'à peu près une vingtaine d'années d'ici 2035. C'est absolument considérable, et Google a les moyens de faire au moins une petite partie de ce chemin. C'est en cela que Google ne va plus être simplement une société informatique, mais va être une société MBIC, c'est-à-dire une société maîtrisant à la fois les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Google est la société pivot de l'idéologie transhumaniste parce qu'elle maîtrise tous les outils permettant de faire reculer la mort et de renforcer l'humanité.
Elle en a
la vision idéologique.
Oui, j'ai une question pour vous, Laurent-Alexandre. Vous pensez quoi, justement, de Calico, cette boîte donc de Google qui a été lancée, qui a fait dire au Time Magazine que Google pouvait éventuellement battre la mort, ce qui a été assez critiqué par d'autres médias qui disaient que c'était pas très sérieux. Est-ce que vous pensez, justement, que Calico, c'est sérieux? Parce qu'on n'a pas eu vraiment de détails sur ce que cette boîte allait faire, à part combattre effectivement le vieillissement. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Comment Google compte s'y prendre?
Calico a plusieurs outils. D'abord, la volonté d'être transgressif et d'explorer des voies technologiques qui n'ont pas été explorées jusqu'à maintenant. La puissance technologique sur l'intelligence artificielle et les algorithmes de Google, et puis les moyens financiers considérables de Google. Donc Calico a beaucoup d'outils. En plus, les dirigeants de Google ont dit qu'ils n'attendaient pas de Calico des résultats à 2 ou 3 ans. Calico est un projet de très long terme.
Ouais, ils se donnent le temps. Donc, aussi, Calico, c'est là où ils sont malins chez Google. Merci beaucoup à nos invités.
Beaucoup d'années pour mettre en place des stratégies innovantes, et il n'est pas impossible que Calico fasse réaliser des vraies percées dans le domaine de la lutte contre la mort.
Merci Laurent-Alexandre, chirurgien, urologue, auteur et chef d'entreprise également. Merci également à Éric Sadin.
Merci.
Auteur, écrivain, philosophe. Vous êtes l'auteur, c'était en mai dernier, de L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde aux éditions L'Échappée. Merci à tous les deux. Merci également à Andrea Fradin.